Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 9h.
C'est une première en France, donc Isabelle est une artiste allemande qui travaille depuis une vingtaine d'années sur un sujet récurrent, c'est celui de son propre corps en mouvement. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours assez atypique, qui a été acrobate, qui a fait une école de cirque, qui a même débuté une carrière en tant que skateboardeuse professionnelle et qui, à la suite d'une blessure, donc se réoriente, fait des études d'art et rapidement donc trouve son médium dans la photographie.
Audrey Oharo, directrice du Centre Régional de la Photographie à Douchy-les-Mines, près de Valenciennes, présente la photographe Isabelle Wanzel. L'artiste allemande, influencée par la danseuse Pina Bausch, expose Corps épreuve jusqu'au 5 octobre. Dans le centre d'art, des photographies collées à même le mur nous montrent l'artiste en suspension dans une figure de chute simulée. Elle s'abandonne dans un mouvement, elle vacille comme si elle faisait écho aux troubles du monde. Entre poésie et gravité, elle nous propose son regard sur le corps au travers du geste court et intense. Un corps désarticulé dans un décor ouvrier. La photographe Isabelle Wanzel et Audrey Oharo, commissaire de l'exposition et interprète.
I work a lot with improvisation, and when I go to a landscape, it's often first a walk.
Il naît en fait beaucoup de l'improvisation. Par rapport au paysage, Isabelle a un premier rapport qui est lié à la marche. En fait, elle se rend vraiment dans les lieux, elle les circule, elle les regarde, expérimente le paysage. Et ensuite, elle est très ouverte à ce qu'elle peut ressentir et sentir dans ces espaces. Et donc, elle attend le bon moment. Et quand c'est le bon moment, elle installe son trépied, son appareil. Et donc, avec le retardateur, elle va avoir quelques secondes pour aller du côté de l'objectif, bouger, trouver le bon mouvement. Donc, au départ, les appareils ne permettaient que de faire une prise et maintenant, elle a l'occasion d'avoir un mode rafale qui permet d'en prendre, par exemple, 20 en une fois. Et tout ça, donc, ça lui donne du temps pour performer devant l'appareil et trouver son articulation en regard du paysage. Et donc, elle recommence un certain nombre de fois. Parfois, la prise est bonne instantanément et parfois, ça nécessite beaucoup de répétition. Donc c'est un travail qui peut être assez long dans la prise.
Le paysage ici a toute son importance. Vous venez aussi d'une ville minière. Ce rapport aussi avec la terre, le charbon, les hommes aussi, c'est vraiment la danse, le corps qui s'inclut aussi dans le sol.
Yeah, for me as an artist, it's of course on first hand interesting.
Son premier objectif, c'est vraiment de poser des questions. C'est pas nécessairement d'obtenir des réponses, mais de questionner le monde. Et c'est très important pour elle d'avoir vu ces connexions justement entre son territoire en Allemagne et ici, notre implantation au CRP. Donc toutes ces similitudes, que ce soit industrielles ou minières, ce qu'elle souhaite faire, c'est vraiment de questionner ce territoire. Et elle se sent un petit peu dans une attitude schizophrène, parce qu'à la fois, elle a l'impression de vraiment bien connaître et à la fois d'être totalement dans un univers inconnu. Donc elle va produire une œuvre et travailler sur cette question des différences et des similitudes, avec dans le but vraiment de pas forcément être dans l'explication, elle ne veut pas expliquer quelque chose au public, mais faire ressentir à travers ce travail sur le corps tout ce traumatisme aussi du passé, que ce soit un traumatisme sur le paysage ou sur les habitants, et comment on peut guérir de ce traumatisme. Questionner à part son travail photographique. Et aussi, donc, si elle se questionne, elle espère que le public fera de même et donc réfléchir ensemble à ces traumatismes.
Vous photographiez aussi l'instant présent, aussi par ses œuvres, où c'est un corps qui est totalement défiguré, un corps qui n'a pas de visage. Ça aussi, c'est un rapport aussi avec les mineurs et le travail de la terre, où finalement, c'était des corps qui allaient au fond et il n'y avait pas vraiment d'identité.
Yeah, of course, because I really believe that for the companies, it's not really, they don't care about the person behind.
Donc elle dit que les entreprises et les grandes firmes en fait n'ont pas du tout le souci du corps. Ça c'est quelque chose qui l'interpelle en fait dans ce système capitaliste. Les intérêts sont très tournés vers l'argent, vers la rentabilité, mais en aucun cas la question du corps en fait et de ce que vivent les corps des gens qui travaillent pour eux n'est soulevée. Alors que c'est vraiment central. Et donc dans ces images justement sur lesquelles on ne voit pas de visage, il y a cette question de brouiller l'identité, de ne plus avoir d'identité. Et c'est la même chose en fait pour ces paysages qui finalement n'ont plus de visage, n'ont plus de particularité. Il y a vraiment une conscience pour la planète en fait dans le travail d'Isabelle aussi, parce qu'il y a ce rapport au corps, mais il y a ce rapport aussi à l'environnement qui nous entoure.
Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la souffrance pour faire comprendre notre rapport au monde et au corps aujourd'hui?
No, I don't think we need necessarily a suffering body, because that makes me think immediately about a Christian.
On n'est pas obligé d'aller jusqu'à montrer justement des corps en souffrance pour comprendre cette souffrance et la questionner. Bien au contraire, parce que pour elle, justement, elle est très très critique sur ces questions-là, de ne pas être dans un rapport aussi à la douleur dans son travail. Mais par contre, de toujours garder en tête que nous vivons dans une société qui fait souffrir les corps, que le monde du travail, le monde de l'industrie, la façon dont on évolue aujourd'hui, on n'est pas du tout justement dans le soin et dans cette attention portée au corps, mais qu'il y a beaucoup de douleurs. Donc en fait, de rester alerte et ouvert sur l'état du monde et notre rapport au corps, et de le transcrire, mais justement de ne pas montrer et de ne pas être dans ce rapport-là avec son propre corps dans ces images.
Isabelle Wenzel fait ressortir l'intelligence du corps, l'émotion et le physique dans ses photographies à l'équilibre fragile. L'exposition Corps et Preuves montre le sujet intemporel sur la représentation du corps au travail et dans notre société.
I think, of course, the history of the mining lays now already in the past, but the general topic of how bodies are treated.
Donc oui, on a derrière nous l'histoire, une histoire avec des ouvriers, des mineurs et toute cette souffrance qui forme le passé. Mais la question générale en fait du traitement du corps, elle n'a pas fondamentalement changé. On est toujours dans ces mêmes problématiques d'exploitation du corps et de souffrance, mais elles sont un peu transformées. Mais dans le fond, c'est une même question. Et c'est quelque chose qui sera intemporel et éternel. On sera toujours dans un rapport d'interrogation vis-à-vis de ce corps. Et tout le monde a un corps, et c'est ce qui nous réunit finalement. Riche, pauvre, en bonne santé, en mauvaise santé, c'est une constante, et ça fait qu'on est tous réunis aussi dans cette même perspective de comment en prendre soin, comment le défendre, comment refuser la souffrance, etc.
How to understand our body in a healthy and a good way better, and how to progress.
Vous habitez dans un territoire aussi minier en Allemagne. Qu'est-ce qui vous a marqué ici quand vous êtes arrivé dans les Hauts-de-France à Douchy-les-Mines?
So I was yesterday for the first time on one of the heaps here, and beforehand I was very much wondering what I would experience. Is it like a déjà vu?
Donc hier, pour la première fois, elle est allée explorer le territoire, et donc elle a vu les terris, elle est montée sur un terri, et c'est vrai qu'elle s'attendait à avoir un sentiment de déjà-vu, à voir justement tout ce qui la rapprochait, enfin ce qui rapprochait notre territoire du sien, et donc elle avait évidemment l'impression de connaître, de retrouver des lumières, des formes, mais à la fois c'est vraiment très très différent, et elle est en train de vraiment y réfléchir et d'essayer de qualifier ce qui est différent. Pour l'instant, elle voit que dans le Rugebiet, donc dans son territoire à elle, le bassin minier est plutôt concentré sur des grandes villes, alors qu'ici, c'est vraiment une suite de petites villes et de villages. Mais elle a aussi été extrêmement impressionnée par le nombre de terris visibles plus de 250 sur le bassin minier. Donc ça, c'est une quantité à laquelle elle n'était pas préparée et elle a trouvé ça vraiment impressionnant et ça montre à quel point le bassin minier est gigantesque et tout ça va lui permettre de nourrir sa réflexion et aussi la dimension sauvage du territoire.
Et Audrey Warhol va pouvoir continuer à nourrir sa réflexion puisque le CRP va passer une commande auprès de l'artiste pour qu'elle puisse aussi réaliser des œuvres, des photographies sur le territoire, allier son travail photographique à celui à venir.
Oui, alors c'est très important pour le Centre d'art en fait de maintenir sa mission de soutien à la création, de production d'œuvres et aussi dans le cadre d'une collaboration aussi importante avec Isabelle, donc je le répète, sa première exposition en France, mais de garder une trace de ce passage parce qu'une exposition c'est éphémère, en octobre on la démontra et on avait le souhait de maintenir un lien avec elle et de surtout travailler sur cette similitude dont on parle, similitude de territoire, d'approche. Et donc on a passé une commande à Isabelle qui va travailler à la création d'une œuvre unique qui viendra rejoindre nos collections et qui sera produite sur le territoire. Donc on imagine que là, dans ses premières recherches, elle est très attirée par les terris, mais ça pourrait être totalement autre chose. Ça pourrait être d'ailleurs aussi en collaboration avec les sites miniers avec lesquels on travaille régulièrement. L'idée, c'est de nourrir la collection qui est déjà riche de ces approches d'artistes qui se sont confrontés à notre territoire. Et là, je trouve qu'on a une incroyable chance de pouvoir le faire avec cet artiste.
L'audace, la facétie et la prouesse de l'artiste Isabelle Wanzel à découvrir gratuitement au Centre Régional de la Photographie à Douchy-les-Mines dans le Hainaut jusqu'au 5 octobre. Retrouvez tout le programme d'activités autour de l'exposition sur la page Facebook CRP Centre Régional de la Photographie. Rencontre avec Isabelle Wanzel, photographe, et Audrey Ouharou, directrice, commissaire de l'exposition et interprète pour cette interview. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus.
Personne n'a pu imiter vos attitudes, votre spontanéité, vos trouvailles. Il me semblait impossible, lorsque je vous ai connu, que vous puissiez vous surpasser. Et pourtant, quand je vous entends à présent, je m'aperçois que votre art a encore gagné en profondeur, en sensibilité, que d'esprit et que d'humour.
106,6.
Vous êtes le chef de file, celle qu'on ne remplace pas. Que de joie, que d'émotion je vous dois.
www.campuslille.com.
Il me faudrait des heures pour parler de vous. Je vous admire de tous mes yeux, de tout mon cœur. Vous êtes la plus grande. Merci infiniment de m'avoir tant donné.
C'était la folie autant que je m'en souvienne. On voulait pas bosser pour qu'on nous retienne. Il eût fallu derrière nous s'attoper qu'à la course. Mais en tout cas rien n'a coulé de source. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Juste le lendemain se regarder dans une glace. Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête. Et se le dire, cette folie on l'a faite.
L'évidence n'était pas chez la voisine. Vous voulez chanter, et ben casque maintenant. Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine qui ouvre ses bras en criant. C'est donnant, donnant. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite.
Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non.
Et c'est ainsi qu'on est parti sur les routes. Les kilomètres auraient mérité, tu t'en doutes. Le mot respect ou qu'on nous donne un diplôme. Parce qu'on n'était pas dans un beau sous-marin jaune.
Croyez-le, y'a pas eu de miracle. On n'a pas...
pas fait demi-tour au premier obstacle. On n'a pas fait demi-tour et pour cette place,
sous le déluge,
on a roulé sans essuie-glace.
Yeah, on a caché ce qu'on avait de plus précieux, la cagoule et puis les bottes de sept lieux. On mouillait le maillot tout à la fois, être trimard et saltimbanque, tu le crois.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement,
se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a fête.
Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, con. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement.
L'autre jour j'ai même dit à Mousse, il faut leur dire plus de couscous. Moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulets, tous les poulets, poulets.
Je me souviens on était tellement pliés, on a envié
deux secondes
le monde ouvrier. Allez roulez si t'as plus rien dans le ventre. On vient, on met le feu et puis on rentre.
La vie de bohème peut se résumer ainsi. Je me promène avec madame pharmacie, Camol, Doliprane et Sagidal. Sont les trois mamelles des tueurs de balles.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement,
se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a fête.
Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non non.
Plutôt que de changer les fringues, qu'est-ce que t'en penses? On s'achète, je sais pas moi, une ambulance. On arrive du bonheur lorsque chantait la foule. Le petit, sur des valises, c'était cool.
Pas de cadeaux, pas de traîne et pas de fleurs. Si t'as mal au mollet, sèche tes pleurs. Y'a pas d'arrangement et c'est la formule. Sinon garde ta baignoire et va faire des bulles.
Est-ce qu'il y a le spectacle et sa légende? Quand y'en a un qui tombe,
l'autre en redemande.
La tête cassée, le reste à la dérive. Sans petit tour, mais que les caches suivent.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement,
se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a fête.
Y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement.
I go outside to find the middle of nowhere. Everyone needs their own empty stage. Just like the sky with no beginning or ending. Or like reading a book without a last page. Stop and turn around and say it with your eyes closed. You don't need to welcome me home. Stop, turn around and try looking with your eyes wide open. As we live our lives through a series of glances, a new smile without smiling for a whole nother year. I think we need a little bit more understanding. I think the future is already. So I won't ask you to stop and turn around. Say it with your eyes closed. You don't need to welcome me home. Stop and turn around and try looking with your eyes wide open.
Apporter une réponse concrète aux enjeux de transition énergétique, c'est l'objet de Mines de Soleil, une société née à Losangoël, près de Lens, le fruit de plusieurs années de coopération entre des citoyens et les acteurs privés et publics du territoire. C'est au Green Business Forum 2025 à Liévin, près de Lens, que j'ai rencontré Marie Piotrowski, assistante de gestion administrative de la SEM Énergie Hauts-de-France, un outil de développement régional qui accompagne le déploiement du premier pilier de la troisième révolution industrielle, le passage aux énergies renouvelables en Hauts-de-France.
C'est ça, dans le Pas-de-Calais, donc en fait la ville de Losangoël, qui est très ancrée dans la transition énergétique locale, veut travailler avec ses citoyens, veut emmener ses citoyens dans cette transition, et en juillet 2018 lance ce qu'on appelle un appel à concession pour pouvoir solariser ses toitures.
À partir de là, l'idée de fédérer des structures, des sociétés et des citoyens est née.
C'est ça, l'idée principale. Donc, il fallait réunir des fonds pour pouvoir faire ça. Alors, en fait, avec le lancement de l'avis de concession, il y a plusieurs entreprises qui ont postulé pour pouvoir mettre en place le projet. Et la ville de Losangoël a choisi de travailler donc avec un groupement d'entreprises qui est Senelis Service, qui est installateur et développeur de projets photovoltaïques, et la SEM Énergie Hauts-de-France, qui va financer le projet. Mais ce qui était le plus important pour Losangoël, c'était d'inclure les citoyens dans l'aventure de Mines de Soleil.
Donc la structure même de Mines de Soleil, c'est quoi ?
Alors la structure, en fait, vous avez plusieurs entreprises qui constituent l'actionnariat de Mines de Soleil. Donc la première, vous avez la ville de Losangoël, les citoyens, qui sont 149 citoyens, l'entreprise de la SEM Énergie Hauts-de-France et Senelis.
C'est quand même une forme originale de structuration et aussi de développement.
Alors oui, en fait, pour la SEM Énergie a une façon de travailler. Quand elle aide financièrement un projet, on doit créer une société de projet, d'où la création de cette société qui va amener la ville de Losangoël, les citoyens et deux autres acteurs extérieurs. C'est la SEM Énergie qui fait que c'est une société un peu spéciale, mais finalement tout le monde s'y retrouve parce qu'il y a une voix au chapitre de tout le monde. On a un comité citoyen complet, on a la ville de Losangoël et on peut tous travailler en synergie autour de ce projet.
Le domaine général d'action de toutes ces entreprises, c'est quel sujet ?
Alors, la SEM Énergie est un fonds de financement de la transition énergétique uniquement dans les Hauts-de-France. C'est une filiale de la région Hauts-de-France qui va travailler avec les collectivités et avec certaines entreprises pour pouvoir financer la transition écologique et notamment le photovoltaïque et puis après d'autres types d'ENR. Senelis donc est un développeur et un installateur photovoltaïque. Et en fait, ensemble avec la ville de Losangoël, qui est une commune, on a créé la société de projet Mines de Soleil.
Est-ce que vous avez contribué à la planification ou du moins à la mise en plan des ressources, des toitures de l'agglomération ?
Alors justement, c'est en cours. Donc Mines de Soleil, comme je vous l'ai dit, est née en 2018. On a commencé par Losangoël. Là, cette année, on va inaugurer un toit sur la commune de Lens. La Halle Tetlin, c'est une salle de sport. On travaille également en ce moment avec la ville de Liévin. On a aussi des contacts avec la ville de Givenchy-en-Goële. En fait, tout ce qui était anciennement donc, le PMA de l'Artois. Et donc oui, en fait, avec notamment grâce à la ville de Losangoël, qui fait partie du coup de la CAL, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, qui peut parler avec les autres communes et puis leur proposer en fait le système de mines de soleil pour pouvoir effectivement proposer la transition énergétique et notamment l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'entièreté du territoire.
Alors, il y a des initiatives intéressantes. Je pense par exemple à Vimy où on réutilise des anciennes friches pour en faire des lieux adaptés pour faire des panneaux solaires et les mettre en circuit dans la ville.
Alors oui, on connaît le projet de Vimy. Mine de Soleil avait postulé pour travailler avec Vimy, mais ça a été un autre partenaire qui a été retenu.
Donc pour l'instant, vous avez combien de grands projets dans l'Artois ?
Alors on a le projet de Los Angoel qui fonctionne, qui est mis en service en 2020, parce qu'il faut savoir qu'on parle de 2018 pour l'avis de concession, mais à partir de là il y a pas mal de choses administratives forcément qui doivent être mises en place, et nous on a commencé l'installation des panneaux photovoltaïques courant 2019. Ensuite en 2020 il y a eu l'activation du coup des panneaux photovoltaïques, parce qu'entre le moment où on installe les panneaux, il y a aussi le raccordement chez Enedis donc qui est assez long. Et ensuite, là, à partir de là, après Los Angoel, on a travaillé du coup avec la ville de Lens, où effectivement, on va inaugurer la toiture courant juin. Lens va d'ailleurs aussi rentrer à l'actionnariat de Mines de Soleil, et on va aussi accompagner les citoyens de Lens dans cette aventure. On travaille aussi avec la ville de Liévin. Mais aujourd'hui, il n'y a que effectivement la ville de Los Angoel et Lens qui vont produire de l'électricité au nom de Mines de Soleil.
Nous sommes toujours avec Marie Piotrowski qui nous définit maintenant les contours géographiques des actions de Mines de Soleil.
Alors, Mines de Soleil, je pense, ne se rêve pas à travailler à l'européenne ni même à la française. Je pense que déjà la région Île-de-France a vraiment besoin de travailler sur la transition énergétique, parce qu'on sait que c'est une ancienne région, là dans le bassin minier, mais aussi industriel, et qu'il faut très décarboné, et je pense que Mines de Soleil se concentre déjà sur le bassin minier, et je trouve ça très très intéressant de pouvoir déjà emmener les citoyens à une échelle locale, parce que c'est vrai que plus on va s'employer à être très grand, moins on aura cette interaction et proximité avec les citoyens et avec les gens avec qui on rencontre. Et je pense que typiquement à Beauvais, vous avez aussi un projet citoyen similaire. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans différents départements, rien que dans la région, qui travaillent plus ou moins comme Mines de Soleil et qui, à leur échelle, vont pouvoir proposer des alternatives comme ça dans les énergies renouvelables.
Vous pouvez informer les citoyens, je pense, le toit commun par exemple à Lens ou d'autres espaces, les centres sociaux
C'est vrai, alors on l'a pas spécifié là actuellement, mais Mines de Soleil n'a pas d'employé fixe. Donc c'est les trois actionnaires, donc la ville de Los Angoel, la société Sonelis Service et SEM Énergie Hauts-de-France qui travaillent à faire de la communication autour du projet. On a effectivement chacun notre entreprise et chacun nos, je vais pas dire priorités, mais on a des choses aussi à faire. Et c'est vrai que aujourd'hui, en termes de communication, on a un site internet, on a une page Facebook, on a un LinkedIn, mais on n'a pas encore de communication dans des endroits fixes où les gens peuvent s'en référer. On travaille aussi avec la société énergétique qui est là pour proposer aux citoyens d'entrer dans des projets d'énergie renouvelable. Donc je sais qu'ils travaillent avec nous pour Los Angeles, qui travaillent avec nous aussi pour Lens, et qui dans ce cas-là, en fait, vont pas mal communiquer autour de ce projet, mais ça reste à des petites échelles.
Voilà, donc Mines de Soleil, autrefois il y avait des mines qui apportaient économiquement leur contribution au développement économique de notre région. Bon, là c'est clair que maintenant c'est plus du tout les mines de charbon. Le soleil, c'est l'énergie qu'il faut développer. C'est un peu ça le projet de Mines de Soleil.
C'est exactement ça, oui, tout à fait.
Avec donc 128 citoyens qui en sont membres, on va dire actionnaires à 36%.
C'est ça.
Et leur poids continue d'augmenter avec une initiative de la ville de Los Angeles de permettre à chacun de ces nouveau-nés d'intégrer l'équipe.
Tout à fait. En fait, aujourd'hui, effectivement, les citoyens de Los Angeles sont majoritaires dans l'entreprise. Donc, on parle vraiment d'une société citoyenne. Et comme vous l'avez relevé, la ville de Los Angeles offre à chaque nouvelle naissance une part de la société Mine de Soleil à un nouveau citoyen qui intègre la ville. Et ce sont aussi donc les citoyens fondateurs.
Est-ce que vous avez des besoins, des demandes ? Est-ce que le public peut vous rejoindre pour faire quoi ?
Alors oui, c'est toujours un plaisir de renseigner sur la transition écologique qui est, je pense, aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français pour le lendemain. Donc oui, ça serait très intéressant de travailler avec d'autres citoyens ou même d'autres entreprises. Pour pouvoir entrer dans l'actionnariat de Mine de Soleil, il faut être donc adhérent. En général, il faut faire partie de la ville dans laquelle un projet naît, mais après, effectivement, on peut penser à différents types d'ouvertures. Les comités citoyens sont les bienvenus. Il y a peut-être un comité citoyen qui peut naître dans une ville autour de la comité d'agglomération Lens-Liévin, qui peut se former et ensuite rejoindre Mine de Soleil en disant « Bah écoutez, nous, on a pensé à ça, on aimerait ça, on a travaillé avec la mairie sur tel sujet, on aimerait rejoindre Mine de Soleil parce que c'est un projet qui nous intéresse. » Et dans ce cas-là, effectivement, ça serait génial. On pourrait faire grandir Mine de Soleil, toujours à l'échelle locale, mais pouvoir montrer en fait aux citoyens qu'on peut, en tant que personne individuelle, travailler autour de la transition énergétique et pouvoir rejoindre le mouvement.
Votre site ?
Alors, c'est www.minedesoleil.fr.
Voilà, donc avis au public.
C'est ça, exactement. Et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, pareillement, Facebook et LinkedIn. Yes.
C'était Marie Piotrowski pour la présentation de Mine de Soleil. Plus d'informations sur le site minedesoleil.fr. C'était un sujet de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus. On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillerproduction.com et sur ticketmaster.fr.
voilà. Et voilà, je pars. Oui, je pars sur mon petit vélo. Et voilà, je pars sur mon petit vélo. Mon cartable sur le dos. Et voilà, pour l'école, je pars sur mon petit vélo. Mon cartable sur le dos. Pour l'école, il est 8 heures. Le jour se lève.
Allez, Sandra.
Il est 8 heures. Oui, j'ai encore sommeil.
Lève-toi. Prenez l'école.
Oui, oui, certes. Je me prostituerai dans les bordels de Macao, sale nu affalé au fond de sordides tripots. Je poserai nu dans des ateliers miséreux pour des peintres sans talent, sans les sous, les
pédénales.
Puis j'irai m'installer dans le désert, ça fait peur aux scorpions. On verra qui plus fort piquera, traîné par des chiens, explorant le pôle Nord. C'est moi qui ferai cuire les nouilles de Paul et Mille Victor. Je me saoulerai avec les pires torpoyaux, eau de vie, de crachat, alcool, de cachalot, dans un avion rouge. En Colombie, je transpailleterai la cocaïne vers les États-Unis. J'irai au Chili voir Pinochet. Je lui verserai la ciguë dans son thé, ou bien je le noierai dans son Bloody Mary. C'est lui qui avait lancé cette mode au Chili. Amazon, narco, bras toute nue, croquerait du cobra. Symétrique, sans trancher, hurlant à capella. J'irai poser des bombes en mâchant du nougat. Ça fera, et toute la terre tremblera. Je prendrai la tête d'une multinationale. Je boufferai du dollar, je mettrai tout sur la paille. Je me ferai mercenaire sans le moindre scrupule. Escouade de sang, on m'appellera. Bourreau, je tuerai d'une simple grimace. En Chine, en Arabie, au Nigeria, au Texas. Et je ferai la danse du ventre, la Salomé tendre.
Faut être coupé. Non, je veux pas.
Je suis trop petite et grincheuse, que je me suis monté la tête, que je ne suis qu'une petite joueuse. Ouais, je pense à celui qui dit qui est. Riez, riez, vous verrez bien. Sur mon petit vélo, je fais de la main.
Un petit geste obscène.
Je fais teinter la sonnette. Je m'envole. Et je vous dis ciao. Et je vous dis ciao. Et je vous dis ciao. Sur mon petit vélo, je m'en vais là où ce matin dire bonjour, porter des croissants à mes amis. À mes amis. À mes amis.
2023 et 2024 ont été des années marquées par des précipitations abondantes sur les Hauts-de-France, provoquant des inondations records, notamment dans le Pas-de-Calais. Début 2025, ce même département est en alerte sécheresse agricole. symptôme météorologique de l'évolution climatique aux conséquences amplifiées par les modifications paysagères. Gabriel Bertin est maire de la commune de Rivière, dans la Rajoie. Sa commune, d'un millier d'habitants, est traversée par un cours d'eau, le Crinchon. Il dénonce la disparition des prairies, l'intensification des cultures agricoles qui mènent à l'appauvrissement des sols et à leur imperméabilisation, renforçant le risque d'inondation. Gabriel Bertin.
Et la problématique de l'agriculture et des agriculteurs, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et finalement, nous, à Rivière, par exemple, on a un grand territoire, on a 1200 hectares autour du village, et on a de plus en plus des agriculteurs qui viennent de très loin cultiver. On a de moins en moins d'agriculteurs du pays, du village.
Hein, c'est quoi de très loin ?
Ben de très loin, ça fait 40 km. Voilà, et après, voilà, mais c'est la tendance générale. Hein, et finalement, les petites fermes qui s'arrêtent, on voit bien, sont reprises à prix d'or, hein, par des plus grosses structures agricoles hein, qui là, n'hésitent pas à faire des kilomètres hein, pour, avec leurs gros engins pour venir cultiver.
Cultiver ici, autre chose que ce qui était fait avant ?
Alors l'évolution qui est constatée, mais pas que autour de notre commune, hein, c'est quelque chose qui est constaté dans les Hauts-de-France. Hein. On a des grandes cultures, on a essentiellement de la grande culture, hein, plutôt intensive, hein, voilà, plutôt qui utilise quand même pas mal d'intrants, hein, en engrais, etc. Et toute cette démarche cumulée d'année en année, effectivement, a appauvri la capacité du sol à être résilient, hein, donc, et même à s'auto-fertiliser, hein, voilà, du fait de la disparition du monde vivant, on voit quand même une aggravation du fait de l'arrivée de façon plus massive de types de cultures, comme la pomme de terre, hein, plutôt pour destinée à l'industrie. Ça, c'est une grande inquiétude pour les Hauts-de-France. On le voit déjà autour de nos villages. On le voit également dans la Vénois, parce que là, la Vénois, avec le bocage, qui est une pépite aussi nature à préserver, mais qui est déjà impactée par cette pression de l'arrivée de ce type de culture. On a des grosses industries qui se sont implantées dans la région et qui ont demandé très vite plus de 50 000 hectares de pommes de terre dans les Hauts-de-France, hein, à passer une ancienne culture à ce type de culture, destinée plutôt vers des marchés mondiaux, hein, et non pas vers la nourriture pour nous, pour la France. Hein. Donc ça, c'est très inquiétant. Et surtout, moi, très concrètement, autour du village, pour revenir à notre village, c'est la disparition progressive des prairies autour de notre village, mais de tous les villages de notre région. Et ça disparaît à grande vitesse. C'est impact sur le paysage, impact sur la biodiversité, la disparition des prairies, du bocage autour de nos campagnes. On est moins protégé des coulées de boue et des risques d'inondation. Enfin bref, il y a tout un tas de... Et effectivement, une prairie, ça c'est un bel exemple, hein, c'est une capacité d'éponge remarquable, hein, et capacité de filtration de l'eau et d'alimentation des nymphes phréatiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des coulées de boue et des inondations dont on parle, mais une des causes majeures de ces problématiques coulées de boue et inondations, là pour les cas extrêmes qu'on a eu dans le Pas-de-Calais, la cause majeure vient de la perte de la capacité du sol dans les champs cultivés de façon intensive à capter l'eau. Donc l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, avait confirmé depuis quand même pas mal d'années un sol sans vie. Bon, on prend des lombrics, hein, bien sûr, parce que pour que tout le monde comprenne, il n'y a pas que les lombrics, évidemment, dans un sol qui vit normalement. Un sol qui n'a plus ce type, par exemple, les lombrics, a perdu 90% de sa capacité à absorber l'eau. Donc vous imaginez, d'une époque, à un moment donné, un sol vivant, il capte 100 litres. Aujourd'hui, il ne capte plus que 10 litres. Voilà. Donc ce qui veut dire que les fameux 90 litres qui restent sur les 100 litres, ça va où ? Effectivement, ça va prendre de la terre, du limon, et ça va l'entraîner très loin, dans les cours d'eau, dans les vallons, et ça va à la mer. Et d'où, bien sûr, les inondations du Pas-de-Calais, et même des problèmes d'évacuation à la mer qui se posent, évidemment, parce qu'il y a tellement d'eau qui arrive dans les basses vallées.
Vous avez des contacts avec la Chambre d'agriculture ?
Moi, je fais partie de la commission locale de l'eau, en tant qu'élu, comme je suis motivé par tous ces... J'ai travaillé sur le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau sur le bassin de la Scarpe, hein, voilà, amont, quand on dit la commission, enfin, le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau sur le bassin versant Scarpe amont, dans lequel il y a notre cours d'eau, le Crinchon, hein, qui a été un petit affluent. Et puis, moi, je fais partie aussi du comité de pilotage du plan alimentaire territorial. Vous en avez ici, je pense, dans chacun des territoires, dans les collectivités. Donc, on est en contact avec des gens, des membres de la Chambre d'agriculture. Et à chaque fois que la Chambre d'agriculture organise des rencontres sur le terrain pour parler de la problématique du sol, etc., je vais voir un peu. Voilà. Donc, il y a des superbes choses qui sont mises en avant, effectivement, des beaux exemples. Par contre, ce qui est dit, ou les beaux exemples qui sont montrés, ben, on les retrouve pas, de toute façon, je dirais, dans la culture en général. Donc, il y a une prise de conscience, je pense, forte du côté du monde agricole. Par contre, à la mise en pratique, le changement de cap, d'orientation, en tout cas, on ne le voit pas. On voit plutôt des choses qui vont dans le sens contraire. À l'arrivée de la pomme de terre industrielle, pour nourrir, exemple, l'usine Clairvoûte, près de Dunkerque, qui va plutôt nourrir 150 pays en frites surgelées, par exemple, hein, des produits. C'est de la malbouffe. Hein. Donc, en fait, on fait le Mercosur à l'envers. C'est-à-dire qu'on fait de la malbouffe qu'on envoie dans le monde entier, et alors que les gens dans ces 150 pays, par exemple, si je prends le cas de Clairvoûte, se nourrissent avec leurs produits de leur territoire. Et donc, ils vont voir débarquer pour faire du business. Hein. Mmh. Évidemment, ça fait marcher du business. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, moi, en tant qu'élu, j'interpelle la collectivité en disant dites-moi comment je peux faire, moi, en tant que maire, je n'ai aucun moyen de préserver mes prairies. Elles sont pourtant, au niveau du plan local d'urbanisme de ma commune, indiquées en prairies à préserver. Puis elles vont être détruites. Et par un monde avec lequel on a quand même. On n'a pas d'interconnexion, de discussion facile. Et moi, je suis un défenseur à fond. On est en train de retravailler les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. On devrait faire des PLUA, c'est-à-dire plans locaux d'urbanisme et agricole. C'est-à-dire travailler vraiment la main dans la main. Hein, parce que l'agriculture fait de l'aménagement du territoire, tout comme l'urbanisme, hein, tout comme les élus, etc. Mais quand on détruit une prairie, que moi je ne veux pas détruire pour y mettre des maisons, mais qui va être détruite quand même pour faire un champ de pommes de terre, de céréales, de betteraves, etc. Parce que c'est beaucoup plus rentable, et je comprends, hein, y a moins d'élevage, etc. Mais malgré tout, c'est une destruction. Au niveau de l'aménagement du territoire, c'est surtout, il faut arrêter de faire ça. Quoi. Je pense qu'on doit vraiment travailler beaucoup mieux ensemble. Mais par contre, il faut, à mon avis, l'imposer vis-à-vis avec les lois.
Gabriel Bertin, maire de Rivière, commune du Pas-de-Calais, dans l'Arrajois. Alors, une autre agriculture est-elle possible pour préserver la ressource en eau et maintenir les sols en bonne santé? Michel Delisle est agriculteur dans le Douaisis. Sur ses 85 hectares, entièrement cultivés en bio, il produit des lentilles, des pois chiches, des haricots, des céréales et même des pommes de terre. Michel Delisle.
Il y a des moments où on vit des moments pas simples, surtout en ce moment. J'avoue que la politique actuelle, le marché, hein, faut le dire aussi, hein, fait qu'il y a des moments où on a envie de baisser les bras et de se dire pourquoi on se bat, quoi. Et ça peut se comprendre. Vraiment, c'est énergivore dans le sens émotionnel.
Aujourd'hui, on peut se passer de l'irrigation et attendre ce que donne le ciel en pluie.
Alors, une année comme l'année dernière, oui, largement. Il n'y a pas de souci, j'avais même trop de haricots l'année dernière, voilà, pour information. Cette année, je ne sais pas, j'espère toujours. Là, je fais du haricot vert en frais, par exemple, où on récolte toutes les semaines, on sème toutes les semaines, on récolte toutes les semaines. J'espère ne pas avoir irrigué. Jusque-là, le sol, j'ai de la fraîcheur en profondeur, j'ai travaillé mon sol, j'ai roulé, j'ai fait tout pour conserver la fraîcheur au maximum. Je croise les doigts, j'ai pas envie de monter les tuyaux. Je les ai. Mais contrairement à beaucoup de mes voisins, j'ai l'irrigation chez moi. Mais c'est une assurance récolte pour moi. C'est pas parce que j'ai la machine dans ma cour que j'ai envie de l'utiliser. Une fois, je m'en souviendrai toujours, j'étais en train de monter l'irrigation, c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et comme tous les jeunes de notre époque, hein, on fait une petite photo, on met sur Facebook, fait chier, faut monter l'irrigation. Un voisin qui a un petit 300 hectares me met un petit message, si ton métier te plaît pas, t'as qu'à changer. C'était pas le métier qui me plaît pas. C'était juste que ça me faisait chier de sortir l'enrouleur, que le temps ne me permettait pas de faire autrement et que par obligation, je mettais l'enrouleur.
Ouais. Comment vous gérez cette équation entre ce qui est nécessaire, ce qui est possible, ce qui est raisonnable et ce qui deviendrait finalement peut-être superflu?
Sur ma ferme, moi, personnellement, je regarde la plante. Je regarde le sol. Est-ce que la plante est visiblement en manque? S'il y a des signes avant-coureurs qui disent voilà, la planque est en manque et c'est réellement un stress hydrique, c'est-à-dire qu'on commence à voir des petits bouts de feuilles qui se dessèchent, parce que déjà se dessèchent, c'est déjà un signe bien avant-coureur, mais qui commencent à changer un petit peu de couleur, qui sont là, il faut y aller, là, il faut qu'on y aille. Voilà. Sur la pomme de terre, sur les 5 dernières années, je crois que j'ai irrigué une fois un hectare de pommes de terre. Voilà. Haricots verts, c'est un peu plus spécifique. Sur les 5 dernières années, on a irrigué 3 fois. Voilà. Et 3 fois, 3 tours d'eau à 10 mm. Parce que j'ai peut-être aussi la... pas l'envie d'aller irriguer de la pomme de terre par choix aussi. Hein. C'est, voilà, j'ai pas forcément envie de ça. Après, je suis déjà en bio, donc mon rendement va être un chouïa moindre que le conventionnel. Je fais aussi de la pomme de terre de consommation, pas de la pomme de terre d'industrie. Donc on est aussi sur des variétés qui ne sont pas les plus productives déjà dès le départ. On part déjà avec un petit peu d'handicap là-dessus. Mais malgré tout, à la même variété... on va dire même principe de fonctionnement, à la différence qu'il y en a un qui va irriguer, l'autre qui ne va pas irriguer, allez, peut-être que celui qui va irriguer va faire 10% de plus, quoi. Voilà. Sur mon secteur, là, je pense à une variété où j'ai un voisin qui irrigue cette variété-là, il ne fait pas forcément beaucoup plus que moi, sachant qu'il est en conventionnel, en plus. Il y a une dizaine de pourcents, ouais, c'est ça.
Dernière question sous forme de boutade, mais qui n'en est pas une finalement totalement. Ce qui va demain peut-être changer les pratiques agricoles, c'est que McDo commence à faire un menu lentilles pois chiches pour que ça fonctionne.
Oui, le steak lentilles pois chiches avec une salade verte bio à McDo, bah oui, ça va faire changer les pratiques. C'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, si on veut des changements de pratiques, c'est malheureusement les industriels qui ont la moitié de la clé, puisque la restauration hors domicile aujourd'hui, je ne sais plus c'est combien de pourcents, mais ça dépasse les 20%, je crois. La restauration hors domicile, c'est-à-dire, c'est pas forcément manger à la cantine pour ses gamins. Hein. Restauration hors domicile, c'est aller se faire plaisir un soir au restaurant, aller s'arrêter, prendre un sandwich sur la route, ça s'appelle de la restauration hors domicile. Voilà, on est à, je crois, plus de 20% aujourd'hui en France. Et rien que ça, vous allez dans un restaurant, moi qui suis producteur bio, représentant bio et tout le tralala, j'essaie de faire attention. Quand je vais dans un resto, bon, je suis sur l'autoroute, je m'arrête sur le resto de l'autoroute, bon, bah, j'ai pas, je prends ce qu'il y a. Mais tiens, c'est bizarre, ah là, il n'y a pas de bio du tout. Ah là, celui-là, il y a un petit truc bio. Ah bon, c'est le vin. Ok, d'accord, là c'est la ligne 20, ça c'est le plus simple. Hein. Voilà. Ah tiens, lui il a fait des lentilles bio ou des pâtes bio parce que. Enfin, voilà. Voilà, c'est insignifiant aujourd'hui, quoi. Et la problématique c'est d'amener les gens vers ça. Et ça c'est très compliqué et il n'y a qu'un seul moyen, c'est leur communication.
Michel Delisle, agriculteur bio de la ferme des Blancs Moutons dans le Douaisis. Agriculture entre sécheresse et inondation, un sujet de Hervé Dujardin pour Radioscape Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, campusil.com et en DAB+ sur la métropole lilloise et sur l'Artois.
je resterai là sans rien dire. Vous me regarderez partir. Et je resterai là sans rien dire.